Donc la conférence de ce soir qui va être donnée par M. Marc Duval, ici à mes côtés, s'inscrit dans cette série de conférences sur les métiers de l'ingénierie industrielle que nous organisons en partenariat avec la société Technip. Et cette série a commencé lundi dernier et elle se poursuivra jusqu'au lundi 15 janvier, jusqu'au lundi qui vient. Et donc il nous restera encore trois conférences après celle de ce soir. La prochaine série des conférences de l'Université de tous les savoirs au mois de juin portera sur les hommes dans les conditions de vie extrêmes. Pour ce qui est du programme complet, aussi bien des conférences récentes que de toutes celles jusqu'à depuis l'an 2000, sur nos modes de diffusion aussi, je vous renvoie aux documents qui sont à votre disposition sur la table à l'entrée de la salle, ou bien aux indications qui sont fournies sur notre site internet www.utls.fr. Comme je le fais tous les jours, je remercie le ministère de l'Éducation nationale, d'enseignement supérieur et de la recherche qui soutient l'Université de tous les savoirs, ainsi que tous nos partenaires médias et l'Université Paris 5 qui nous permet de vous accueillir ici dans cet amphithéâtre Binet. Alors maintenant, j'en viens à la présentation du conférencier de ce soir. Il va nous parler de méga-usine, méga-défi, l'usine de gaz naturel liquéfié. Il s'agit de M. Marc Duval, qui est né en 1954, qui est ingénieur de l'École supérieure de chimie industrielle de Lyon et directeur de projet. Il a été directeur de Technip Germanie. Il a 25 ans d'expérience et plus sur les différents aspects des activités d'ingénierie, et notamment d'ingénierie du process à la direction de projet. Donc spécialiste des grands projets pétroliers et gaziers, pétrochimiques et de l'industrie de la chimie fine. Donc Monsieur Duval va nous parler de son sujet pendant une cinquantaine de minutes et puis ensuite je reviendrai ici à cette tribune pour les traditionnelles questions. Voilà, merci.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci Monsieur Michaud de cette présentation. Je vous souhaite tout d'abord une très bonne année, parce que j'ai encore jusqu'à la fin janvier pour le faire, donc j'en profite. Et je vous félicite d'être venu ici. Vous êtes en fait très courageux pour écouter un sujet aussi technique. Je vais vous parler méga-usine, ce que dans notre jargon nous appelons chez Technip des projets XXL, c'est-à-dire des projets au-dessus d'une valeur au-dessus de 1 milliard d'euros, et qui sont réalisés de plus en plus, et en particulier dans le domaine du gaz naturel liquéfié, et c'est la raison pour laquelle je donnerai comme exemple le gaz naturel pour illustrer cet exposé. L'exposé sera organisé autour de 5 points. D'abord, pour vous faire comprendre pourquoi de plus en plus les usines dans le domaine du pétrole et du gaz sont de plus en plus complexes, de plus en plus intégrés et de taille de plus en plus importante. Ensuite, je vous montrerai comment Technip s'est organisé, s'est adapté à cette situation, à cette nouvelle donne. Après, nous parlerons de l'usine de GNL, c'est-à-dire de gaz naturel liquéfié. Nous verrons ce que sont les grands défis d'une usine de GNL. Et enfin et surtout, comment les femmes et les hommes qui réalisent ce type de grands projets sont organisés pour les réussir. Alors tout d'abord, pourquoi des usines toujours plus complexes? 5 points, encore une fois, donc je parlerai développement technologique et développement technologique en particulier dans le domaine de la liquéfaction de gaz, de l'intégration du développement durable et ce pour la protection de l'environnement, du contenu local, qui est une autre forme de développement durable, de même que la forte demande énergétique mondiale que vous connaissez, et que j'expliquerai ensuite, j'expliquerai du point de vue de la prédiction au cours des années à venir. Et enfin, des regroupements des donneurs d'ordre, des grands donneurs d'ordre dans le domaine du pétrole et du gaz. Alors, en 1996, nous étions capables de faire un train de liquéfaction qui produisait 3,5 millions de tonnes par an de gaz liquéfié. Le facteur limitant étant la puissance de réfrigération fournie par d'énormes compresseurs entraînés par des turbines à gaz. En 2006, c'est toujours le cas, le même facteur limitant, mais cette puissance est montée à 7,8 millions de tonnes par an, c'est-à-dire nous avons multiplié par 2,2 la capacité de la même usine. Et les fournisseurs de compresseurs ainsi que de turbines à gaz, les turbiniers, prétendent aujourd'hui qu'en 2010, nous serons à 10 millions de tonnes par an par train de GNL. Cela signifie évidemment un grossissement très important pour nous de tous les équipements qui sont à l'intérieur de cette usine. La mise en valeur du développement durable. Dans le domaine de la protection de l'environnement, d'abord la non-contamination des sols, c'est-à-dire la récupération et le traitement systématique des eaux usées ainsi que des déchets, ce qui entraîne pour nos usines des réseaux enterrés et des traitements de plus en plus sophistiqués, et un délage systématique des unités pour récupérer ces eaux usées. Dans le domaine de la pollution de l'air, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire le CO2 qui est émis par la combustion de l'énergie fossile, et donc la réutilisation du gaz plutôt que son torchage, c'est-à-dire le torchage étant voulant dire qu'on brûlait dans le temps le gaz. De même, c'est l'élimination du plomb et du soufre dans les essences et dans les diesels, ce qui entraîne de nouvelles unités de traitement dans les usines. Du point de vue de la protection des mers et des océans, la protection des fonds marins, c'est-à-dire que nous faisons systématiquement des études importantes qui peuvent amener à des modifications importantes sur nos jetés, et en particulier les jetés qui sont liés aux exports de gaz naturel liquéfié. Et nous avons un exemple récent d'un de nos projets, un de nos quatre grands projets de GNL que nous exécutons actuellement, où la jetée a été complètement reroutée pour éviter de contaminer les fonds marins qui sont des fonds assez précieux au sud du Yémen. De même, la réduction de la température de rejet de l'eau de mer. L'eau de mer ici sert à refroidir l'ensemble des unités et nous la recirculons en la rejetant en mer pour éviter que le milieu marin soit gêné par les augmentations de température en temps estival. L'augmentation qui entraîne des débits et le grossissement des équipements. Donc, autant d'éléments à chaque fois qui vont vers l'augmentation de la taille et de la difficulté de nos unités. Nous verrons plus tard d'ailleurs la taille de ces débits d'eau de mer qui, je pense, devraient vous impressionner. Du côté du contenu local, alors la définition du contenu local, c'est la partie qui sera réalisée dans le pays d'accueil de l'usine, dans le but d'en favoriser le développement avec cette usine, et qui consiste en maximiser l'ingénierie locale, l'approvisionnement local de tout ce qui peut être fabriqué localement, dans le pays d'accueil, de former la main-d'œuvre locale qui sera utilisée pendant la phase de construction, ainsi que de former les ingénieurs locaux qui auront à opérer et à maintenir, exécuter la maintenance de leur usine après notre départ. Pour nous, c'est encore plus de supervision, plus de contrôle pour éliminer les risques de retard et de sous-qualité. La forte demande énergétique, donc j'imagine que vous suivez le cours du baril au jour le jour, mais vous savez que le cours du baril depuis ces deux dernières années a augmenté fortement. C'est la conséquence directe de la forte demande par rapport à la production limitée. En 2004 par rapport à 2020, les projections qui sont faites officiellement sur 2020 montrent que côté gaz et pétrole, les augmentations vont tourner autour d'une croissance moyenne sur ces années de 35%, avec 2% pour le gaz et 1,7% pour le pétrole en moyenne par an. Et avec, là je vais rentrer dans le domaine du gaz naturel liquéfié, un doublement de l'ensemble des unités de gaz naturel liquéfié d'ici 2015. Le regroupement des donneurs d'ordre, les cinq majors des années 90 sont devenus maintenant des super majors. En se réunissant, en fusionnant entre eux, c'est-à-dire en ayant une surface d'investissement beaucoup plus grande, qui fait qu'ils investissent beaucoup plus dans de beaucoup plus gros projets que précédemment. Ainsi, Exxon s'est associé avec Mobil pour devenir Exxon Mobil. BP s'est associé d'abord avec Amoco puis avec Arco et est redevenu BP. Shell est le seul des cinq grands qui soit resté inchangé au cours des dernières années. Chevron a fusionné avec Texaco, puis avec une OCAL, est d'abord devenu Chevron Texaco et est maintenant redevenu Chevron. Total a d'abord fusionné avec Fina pour devenir Total Fina, puis a fusionné avec Elf pour devenir Total Fina Elf et est maintenant redevenu Total. Mais 4 sur 5 ont augmenté fortement leur surface et leur surface d'investissement en particulier. Donc tout ceci pour vous dire que ce qui était une exception il y a une dizaine d'années est devenu maintenant monnaie courante pour nous et nous exécutons maintenant une dizaine de projets qui tournent autour du milliard de dollars. Il a fallu nous adapter, donc Technip s'est adapté. D'abord, voyons le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires en 96 tournait autour d'un milliard cinq d'euros. Était fortement orienté Europe, Russie, Asie centrale, pour simplifier, au lieu de 43%, disons 50%. Afrique, Moyen-Orient, à environ 25%, et une trentaine de pourcents pour Asie-Pacifique, ainsi que les Amériques. En 2005, puisque nous n'avons pas encore les résultats de 2006, mais ils seront largement supérieurs à ceux de 2005, la donne a légèrement changé, à savoir que l'Europe, Russie, Asie centrale est passée autour de 25%, c'est-à-dire a été divisée environ par deux. Le chiffre d'affaires étant multiplié par quatre, le chiffre d'affaires dans cette zone a été multiplié par deux. Asie-Pacifique, Amérique, le chiffre d'affaires est resté sensiblement égal, autour de 30%, c'est-à-dire a été multiplié par quatre en 10 ans. Et Afrique-Moyen-Orient, lui, a été multiplié par deux, c'est-à-dire en pourcentage, c'est-à-dire en fait en chiffre d'affaires par 8. Technip en 96, hein, puisque je prends toujours le Technip de 96 ou la situation 96 avec la situation comparée avec la situation 2006, Technip en 96 avait environ 5600 personnes qui étaient réparties dans le monde, mais principalement en Europe. Hein, on faisait 50% de notre chiffre d'affaires en Europe, en Russie, en Asie centrale, avec deux centres historiques de développement qui sont Paris et Rome, et quelques entités opérationnelles, centres d'opération un peu partout dans le monde. En 2006, nous sommes plus de 21 000, c'est-à-dire que nous avons multiplié notre chiffre d'affaires par environ 4, et ensuite, et de la même façon, nous avons multiplié par 4 les personnes qui travaillent avec Technip. Et la carte du monde Technip est légèrement différente. Paris et Rome sont toujours là, les centres historiques sont des centres principaux. C'est adjoint un grand centre qui est à Aberdeen en Écosse, qui s'occupe essentiellement de tout ce qui se passe en mer du Nord. Le centre de Houston a grandi énormément et travaille essentiellement lui aussi pour tout ce qui se passe, bien sûr aux USA, mais dans le golfe du Mexique, au large des US. Le centre de Rio de Janeiro a fortement grandi en Amérique du Sud et travaille avec Petrobras pour tous les développements offshore au large du Brésil. Côté Afrique, il n'existait rien. Maintenant, nous avons plusieurs bases et plusieurs yards. Côté Afrique de l'Ouest, essentiellement au Nigeria et en Angola. Le Moyen-Orient, qui a fortement grandi en chiffre d'affaires, aussi s'est développé à travers deux grosses filiales qui sont à Abu Dhabi et à Doha au Qatar. Et côté Asie du Sud-Est, le centre de Kuala Lumpur a fortement grandi et rayonne sur l'ensemble de l'Asie, y compris la Chine. Donc, en résumé, Technip, qui en 96 était une société européenne, qui était peut-être d'ailleurs le numéro un, je ne me rappelle plus, mais peut-être le numéro un européen de l'ingénierie industrielle pétrole-gaz en Europe, est devenu un des cinq premiers mondiaux en 2006. Qu'est-ce que l'usine de GNL? Alors, d'abord, on va définir, je vais vous parler un petit peu du gaz naturel. Ensuite, de la production et de la consommation du gaz naturel à travers le monde, et en vous montrant qu'il y a beaucoup de déséquilibres. Le cheminement du gaz naturel, quel est-il entre le producteur et jusqu'au consommateur, ou jusqu'au consommateur au pluriel, hein. à quoi sert une usine de GNL, et ensuite, quelles sont les grandes masses d'une usine de GNL, et qui vous démontrera que, en fait, c'est vraiment gigantesque. D'abord, le gaz naturel. Alors, vous pourriez me dire, le gaz naturel, c'est ce qui brûle quand j'allume ma gazinière. Vous auriez totalement raison. Hein. Mais, en plus, je veux vous dire que c'est du méthane essentiellement. Le méthane, c'est CH4, pour ceux qui se rappellent un peu la chimie. CH4, c'est le méthane, donc, c'est le premier, le plus petit des hydrocarbures. Hydrocarbures étant les composés d'hydrogène et de carbone. C'est un carbone entouré de 4 atomes d'hydrogène. C'est-à-dire que la molécule est saturée. Et donc, elle est stable. C'est par ailleurs une énergie fossile propre. Parce que c'est le plus petit des hydrocarbures et ça a un excellent pouvoir calorifique. Le déséquilibre entre importateur et exportateur de gaz naturel, qu'il soit liquéfié ou non, à travers le monde. Côté États-Unis, côté Europe d'abord, puisque nous sommes européens, côté Europe, nous sommes fortement importateurs. Côté États-Unis, importateur. Côté Afrique de l'Ouest, exportateur. Côté Moyen-Orient, très grand exportateur, et on verra les chiffres après. Et côté Russie, exportateur, avec un gros importateur côté Japon, Corée, Taïwan. Alors, les chiffres de la consommation mondiale et les chiffres des réserves mondiales. Donc, côté Europe, fortement importateur, nous produisons dans la mer du Nord, nous importons essentiellement depuis la Russie, qui elle exporte, à travers des gazoducs, hein, et on a entendu parler récemment. Nous importons aussi depuis l'Algérie en particulier. Côté États-Unis, l'importation se fait vient du Canada essentiellement et du Trinidad en Amérique centrale. L'Afrique, elle, est très exportatrice et c'est encore le Nigeria, essentiellement le Nigeria et ça commence à être l'Angola. Et Moyen-Orient, vous voyez les plus grandes réserves et très peu de consommation. Alors les deux plus grandes réserves de gaz au monde sont Moyen-Orient, le Qatar et l'Iran et plus au nord la Russie. Asie, grand importateur aussi, la production est essentiellement en Asie du Sud-Est, en Malaisie et en Indonésie. Et les grands consommateurs, je vous l'ai dit, sont les Japon, Corée et Taïwan. Donc, déséquilibre entre importation et exportation du point de vue de la géographie, ce qui veut dire qu'il y aura des difficultés de transport. Alors, maintenant le cheminement du gaz naturel. Le gaz naturel est extrait, il est bien évidemment vendu sur le marché local, et s'il y en a beaucoup, il est exporté. Trois façons de l'exporter. Première façon, le gazoduc. Deuxième façon, la liquéfaction du gaz naturel. C'est ce que l'on va développer après. Et quatrième façon, l'usine de GTL, c'est-à-dire une usine située dans le pays de production qui transforme le gaz naturel en essence et en diesel, qui seront ensuite transportés par tanker. Et les consommateurs, l'usage résidentiel, les centrales électriques, la pétrochimie, les engrais et les carburants, c'est le GTL dont je parlais, essence et diesel. Alors à quoi sert une usine de gaz naturel liquéfié? Eh bien ça sert tout simplement, si on peut dire, ça sert à liquéfier le gaz naturel pour pouvoir le transporter à pression atmosphérique. Alors l'avantage, c'est que vous pouvez transporter 600 fois plus de volume. La masse volumique du liquide étant 600 fois plus élevée que la masse volumique du gaz. L'inconvénient, c'est que vous avez à refroidir ce gaz pour qu'il devienne liquide à des températures très basses, autour de moins 160 degrés centigrades. Et ensuite, vous transportez, comme on l'a vu avant, le gaz liquéfié dans des cuves atmosphériques ou sous légère pression, quelques dizaines de grammes de pression pour éviter l'introduction d'air. Vous le transportez par mer dans des méthaniers à pression atmosphérique. Le deuxième moyen que l'on a vu, c'est les gazoducs. Les gazoducs ont des avantages et des inconvénients, mais le plus gros inconvénient est le risque géopolitique transnational. Et on en a eu l'exemple récemment, qui s'est bien terminé, heureusement, avec le gaz venant de Russie, qui était en négociation en Ukraine pour savoir quel prix les Ukrainiens allaient finalement le payer, et qui a failli être coupé du marché de l'Europe de l'Ouest. De même que récemment aussi l'oléoduc qui allait jusqu'en Allemagne. Le deuxième inconvénient, c'est la géographie et les distances. Hein. On a vu les distances entre les importateurs et les exportateurs. Il faut souvent traverser des océans, et traverser des océans avec des gazoducs, c'est extrêmement difficile. L'avantage, par contre, c'est que vous le transportez à pression ambiante. Un inconvénient, c'est que vous le transportez sous pression, c'est-à-dire que vous avez besoin d'installer des stations de recompression tous les X kilomètres, de façon à compenser des pertes de charge en ligne. Alors, quelles sont les grandes masses d'une usine de GNL? D'abord, la puissance installée d'une usine de GNL, c'est 1140 mégawatts. Ça, là, je suis en train de parler de la plus grosse usine, hein, quand même. Hein, soyons modestes. Hein. La plus grosse usine, 1140 mégawatts, c'est-à-dire c'est la puissance disponible pour tracter 130 TGV Atlantique. Hein. C'est aussi la puissance d'une tranche de centrale nucléaire. D'un point de vue de charpente métallique, c'est 25 000 tonnes de charpente métallique, ce qui est plus de 3 fois la masse de la tour Eiffel en charpente. Le tonnage des équipements, c'est autour de 210 000 tonnes, et ça fait 700 Airbus A380. Un Airbus A380 à vide, ça fait autour de 300 tonnes. Le béton, 210 000 mètres cubes, 7 fois l'arc de triomphe de l'étoile. L'eau de refroidissement dont on a parlé avant, l'eau de mer, c'est 2 fois 84 000 mètres cubes heure, c'est-à-dire 6 fois la consommation de la ville de Paris intramuros. Les câbles électriques, c'est 2000 km de câbles, c'est-à-dire 60 fois le tour de Paris, le tour du périphérique. Alors, je ne sais pas si vous êtes impressionné par ces données, mais en tout cas, moi je le suis. Hein. C'est absolument impressionnant. Dans notre métier, nous sommes tous impressionnés par ces chiffres-là. Alors, l'usine de GNL, ça pourrait, c'est en vrac, hein, si ça pouvait ressembler à ça. Hein. Vous avez bien 3 tours Eiffel, hein, elles sont bien placées. Hein, vous avez 7 arcs de triomphe, hein, ils sont bien placés. Vous avez des Airbus, vous avez l'eau de refroidissement véhiculée par la Seine. Vous avez les 60 tours de câble sur le périphérique. Vous avez les TGV. Et heureusement pour Paris, hein, ça ressemble pas du tout à ça. Et pour l'usine de GNL aussi, ça ressemble pas du tout à ça, parce que vous liquéfiez pas grand-chose avec ça. Alors, pour que ça ne devienne pas ce que je viens de vous montrer, l'image que je viens de vous montrer, il y a des femmes et des hommes qui travaillent, et qui travaillent pendant une durée assez longue, pour réaliser ce type d'usine. Il faut environ 3 millions d'heures d'études, c'est-à-dire environ 1000 personnes en pic en parallèle qui travaillent sur le même sujet, sur une durée d'environ 24 mois. Les heures de construction, on parle de 80 millions d'heures. Alors 80 millions d'heures, ça représente 20 000 personnes sur le site de construction en pic. 20 000 personnes. Le délai, lui, pour faire ce genre d'usine, tourne autour de 42 mois, alors ça dépend, hein. il y en a des fois c'est 40, il y en a des fois c'est 45, donc disons autour de 42 mois, et c'est en tout cas, je disais 24 mois d'études, j'ai pas parlé du nombre de mois de construction, le nombre de mois de construction tourne autour de 30 mois, ce qui fait un total de 54 mois, mais ça dure 42 mois grâce à un recouvrement entre la fin de l'engineering et le début de la construction. Et alors, une usine de GNL, ça ressemble à ça. Alors, qu'est-ce qu'on voit là-dessus? On voit 2 trains de liquéfaction, le train 1 et le train 2, qui sont des dupliquettes l'un de l'autre, qu'ils font, on verra combien, on verra la production après. Vous voyez ici l'ensemble de la production des utilités et le traitement des eaux usées et des déchets. Ici, deux petits bacs de stockage de GNL, deux petits bacs qui font chacun environ 150 000 m3, qui sont des bacs double paroi, la paroi intérieure étant en acier allié avec du 9% nickel, la paroi extérieure étant en béton précontraint pour éviter les, pour tenir aux écarts de température. Donc je vous rappelle qu'à l'intérieur de ce bac-là, vous avez moins 160 degrés et qu'à l'extérieur, vous avez la température ambiante. Le gaz, ensuite, le gaz naturel stocké est amené sur une jetée et le méthanier dont on parlait avant va prendre le gaz naturel jusqu'à son port d'expédition. Ici, une jetée d'approvisionnement. Une jetée d'approvisionnement, pourquoi une jetée d'approvisionnement? On verra après que c'est un des challenges de ce genre de projet. Une jetée d'approvisionnement qui amène l'ensemble des matériels pendant la phase du début à la fin du projet, c'est-à-dire du début de la construction jusqu'à la fin de la construction, mais aussi après, pendant l'opération et la maintenance de l'usine. Pourquoi ? Parce que ce type d'usine, non seulement en général, mais toujours, est situé dans un lieu qu'on appelle grassroots, c'est-à-dire où il y a des racines et de l'herbe, simplement, il n'y a rien d'autre. Et un des challenges de ce type de projet, c'est l'infrastructure au tout début du projet, est situé grassroots, est situé forcément en bord de mer, puisque les méthaniers, après, doivent prendre le gaz naturel liquéfié. Quand on dit grassroots, c'est un mot anglais, hein, mais c'est impropre, en fait, parce que bien souvent, on devrait plutôt appeler ça desert routes, hein, parce que ces usines-là sont situées au milieu de, ou en bord de désert, en fait, hein. Alors, qu'est-ce que l'on produit avec l'usine dont je vous ai cité les grandes masses? On produit les fameux deux fois deux trains, hein, deux fois 7,8 millions de tonnes an, ce qui correspond quand même à 40% de la consommation française de gaz naturel. 40%. C'est pas négligeable. En énergie de réfrigération, c'est toujours deux trains de chacun 570 mégawatts, et c'est un très gros frigo, c'est tellement un très gros frigo que ça représente la consommation électrique de 12 millions de réfrigérateurs. Ou encore, si vous voulez, un réfrigérateur, c'est 50 cm de large, ça fait 6000 km de réfrigérateur mis bout à bout. En température, toujours, les fameux moins 160 degrés qui entraînent l'utilisation de matériaux et d'isolation très sophistiqués. Alors, maintenant, quels sont les grands défis de ce type de projet? Il faut savoir qu'il y a, de par le monde, il y a 5 grandes entreprises qui se partagent ce type de projet, ou ce type d'usine à construire. Il y en a deux qui sont américaines, il y en a deux japonaises, il y en a une française, c'est Technip. Alors les Américains, on va faire un peu de publicité pour les Américains, c'est KBR et Bechtel. Et les Japonais, c'est JGC et Chioda, Technip étant l'European Service. Et ces projets sont tous, hein, je dis bien tous, hein, historiquement, sont tous réalisés en co-entreprise, c'est-à-dire que deux de ces 5 sociétés s'associent entre elles pour en créer une troisième, indépendante, dont la durée de vie sera celle du projet, et elles partagent les pertes et les profits de ce projet, et sont conjoints et solidaires vis-à-vis du client. À titre d'exemple, nous réalisons, dont je vous disais, nous réalisons actuellement 4 usines de GNL, nous en réalisons 3 avec le même partenaire japonais, qui est Chioda, et nous en réalisons une avec un partenaire américain qui est KBR et un partenaire japonais qui est JGC. Donc, à chaque fois, des co-entreprises. Des co-entreprises, ça veut dire quoi? Ça veut dire, pour vous poser la question, je suis sûr, si je vous explique pas pourquoi des co-entreprises, La raison, c'est du gagnant-gagnant pour le client ainsi que pour nous-mêmes, à savoir que ça nous permet de diviser par deux ou par trois, si nous sommes trois ou deux, les risques de chaque entreprise, d'une part, de lisser les charges. On a vu qu'il fallait 3 millions d'heures pour faire ce type de projet. Et côté client, ça lui permet, lui, d'avoir deux entreprises qui réalisent ce type de projet. Et si jamais l'une d'entre elles est défaillante, et comme elles sont conjointes et solidaires, la deuxième ou la troisième devra terminer le projet. Donc c'est gagnant-gagnant entre clients, entre donneurs d'ordre et nous-mêmes. Par contre, ça a des inconvénients. Ça a des inconvénients, comme ce sont deux entreprises, conserver la même stratégie d'exécution pendant toute la durée du projet. L'entreprise A et l'entreprise B s'associent entre elles au début du projet, mais pendant la durée du projet, 42 mois environ, l'entreprise A peut avoir une stratégie différente pour une raison quelconque, et une raison évidente, c'est que étant associés sur ce type de projet, sur ce projet-là, nous sommes compétiteurs sur l'ensemble des autres projets. On a vu que les cinq grands joueurs de ce type de projet, c'était les Américains, les Japonais, les Français. Donc il y a forcément des chocs culturels. Et comme ce sont des sociétés différentes qui partagent le travail, il y a aussi forcément des méthodes différentes, et il s'agit donc d'uniformiser ces méthodes. Alors le deuxième grand défi, c'est, on l'a vu, et j'espère que je vous ai convaincu, d'abord plusieurs centres d'opération, puisque on est en entreprise, mais le gigantisme de ce type d'affaires et les 20 000 personnes qui seront sur le site nous entraînent à créer, à faire fonctionner une ville de 20 000 personnes en partant de rien du tout. Et en la créant et la faisant fonctionner très très rapidement. Les approvisionnements, on a vu qu'il y avait environ 210 000 tonnes de matériel, d'équipement qui sont livrés sur ce type de projet. Vous savez peut-être que depuis 2-3 ans maintenant, il y a une très forte tension sur les matières premières. Les matières premières, que ce soit l'acier, l'inox, le cuivre, le nickel, le molybdène, etc. Toutes les matières premières, du fait de des tensions qui existent, plutôt de l'expansion mondiale, due principalement au fort développement de la Chine et de l'Inde. Donc il faut tenir compte de la forte demande mondiale sur ces matières premières. De même, je vous ai dit que depuis environ 2004, les grands donneurs d'ordre investissent énormément pour compenser l'écart entre la demande et l'offre. Donc, par voie de conséquence, nos fournisseurs ont une charge qui est élevée, et il s'agit de faire attention à cela. Et nous voyons tous les jours les délais pour les équipements qui augmentent. Il faut commander des équipements à long délai ou plus tôt. Les équipements à long délai ici, ce sont ceux qui font le délai global du projet, et en particulier dans le cas particulier, c'est essentiellement tout ce qui est autour de la compression et de la réfrigération. Et puis gérer environ 300 fournisseurs de par le monde, ce qui n'est pas une mince affaire. La logistique, un autre challenge de ce type de projet, je vous ai dit que c'était un projet grassroots, donc on part de rien du tout, c'est construire au plus tôt un camp pionnier pour qu'il y ait des gens qui soient en mesure de commencer un minimum d'infrastructures. Ensuite, construire cette jetée d'approvisionnement dont je vous parlais plus tôt pour acheminer les premiers matériels, et transporter et livrer ces matériels de façon ordonnée, de façon qu'il n'y ait pas de congestion de cette jetée d'approvisionnement. Donc ce sont tous ces grands défis, vous les retrouvez sur toutes les usines de GNL. Maintenant, et ça sera le sujet le plus long, comment s'organisent les femmes et les hommes pour exécuter ce type de projet? Alors, j'ai pris l'exemple de deux sociétés en co-entreprise, la société A et la société B, dont le chef de file est la société A. Parce qu'une co-entreprise, c'est bien, mais il faut toujours un leader, sinon vous n'avez pas de décision. Nous sommes organisés en quatre grands centres. Le premier est le directoire, qui est dans le lieu géographique de la société chef de file, le leader, qui exécute l'ensemble du management du projet, et trois centres d'opération qui sont des centres que j'appellerais satellites, qui sont des centres de production. C'est le directoire qui manage l'ensemble du projet et rapporte. Alors, il rapporte à un comité directeur qui est composé de personnalités de la société A et de la société B et qui ont pour objectif ces personnes qui sont au nombre de une ou deux, qui ont pour objectif de faire attention à ce que la stratégie du projet ne soit pas gênée par la stratégie des sociétés. Le directeur de projet est forcément de la société A, chef de file, et il a un adjoint qui est de la société B. Je vous parlais tout à l'heure d'uniformiser les méthodes. Ce seront les méthodes de la société A qui seront appliquées pour l'ensemble du projet. Donc les responsabilités premières d'ingénierie seront faites par une personne de la société A. De même que tout ce qui est autour de la qualité, de la sécurité, de l'environnement. Il s'agira aussi d'uniformiser les méthodes techniques de logiciels, par exemple. Donc le responsable sera aussi de la société A. Le responsable approvisionnement peut-être de n'importe quelle société, de même que contrôle de projet, de même que sous-traitance, de même que la responsabilité des contrats vis-à-vis du client. Par contre, le responsable de la construction, lui qui aura lui aussi à appliquer les méthodes de la société A, est forcément de la société A. Alors, je vais zoomer maintenant sur les responsabilités des différentes personnes. Alors, l'équipe du responsable ingénierie au niveau du directoire, qui est la société A, a pour principale fonction de coordonner l'ensemble des études d'ingénierie faites par les centres d'opération A et B. Ainsi que sur le site, pour l'ingénierie locale. De les consolider et de servir d'interface avec le client pour tout ce qui est problème technique. On y retrouve l'ensemble des disciplines de l'ingénierie, à commencer par le procédé. Les gens de procédé sont ceux qui font le conceptuel et les plans de circulation des fluides, ainsi que les données de base des équipements et des divers matériels. Les gens de génie civil, les ingénieurs de génie civil qui vous font les sept arcs de triomphe. La tuyauterie, faut savoir que nos usines ont beaucoup de tuyaux et que les études de tuyauterie, d'une façon générale, par rapport aux études d'ingénierie, sont à peu près de l'ordre de 50% de l'ensemble des études d'ingénierie. Et les équipements, tuyauterie plus équipements, ça c'est les 210 000 tonnes que vous allez envoyer sur le site. L'instrumentation, ce sont les ingénieurs qui s'occupent du contrôle de l'usine, des automatismes et des sécurités. L'électricité, ce sont les responsables des 2000 km de câbles. Le document de contrôle, ou le centre de documentation qui contrôle l'ensemble de la documentation, les flux, les allers-retours des documents. Et les interfaces, les gens qui s'occupent de résoudre les problèmes d'interface. Très généralement, donc, dans le cas d'une société A et B réalisant une usine de GNL, vous avez la société A qui, si elle est chef de file, aura pour fonction de traiter les unités procédées, c'est-à-dire les unités de réfrigération, de pré-traitement, de réfrigération. Et l'unité B, elle, aura la partie utilité, la partie off-site, ce qui élimine le maximum d'interface entre les deux ingénieries de détail. Mais il reste des interfaces, et c'est un sujet vraiment assez complexe. Voyons voir le suivant. Le suivant, c'est le responsable QHSES. Alors, QHSES, ça vient de l'anglais, ça veut dire Quality, Health, Safety, Environment and Security. C'est pas traduit en français. Cette équipe a pour fonction principale, de la même façon, définir les plans objectifs de qualité du projet, la santé, la sécurité, la sûreté, ainsi que ceux liés à la protection de l'environnement. Elle veille à la bonne application de ces procédures, tant dans le centre d'ingénierie A que dans le centre d'ingénierie B, mais surtout à la construction où les risques sont les plus importants. Elle mesure les résultats du projet à travers des indicateurs et ce à des intervalles réguliers. Le responsable informatique, l'équipe du responsable informatique a pour objectif de mettre en place les moyens de communication entre les différents centres d'opération. Ce au plus tôt, et en particulier encore une fois avec le site, et nous nous retrouvons devant toujours la même chose, le site c'est un grassroots, il n'y a rien, donc il faut vite se dépêcher de pouvoir communiquer avec le site. De s'assurer que tous les centres utilisent les mêmes logiciels, et c'est pas facile parce que ce sont des sociétés différentes, et ces sociétés différentes ont des logiciels qui sont sur le marché, mais aussi ont développé elles-mêmes des logiciels, et ils sont forcément différents ceux-là. Et a pour aussi comme objet de vérifier que les indices de révision des différents logiciels sont bien les mêmes, ce qui n'est pas toujours le cas, même si le logiciel est un logiciel du marché. Cette équipe doit aussi s'assurer que les centres s'assurent du support, le support permanent aux utilisateurs pour l'ensemble du projet avec l'aide des autres centres d'opération. Le responsable approvisionnement au niveau du directorat a en charge l'ensemble des achats du projet. La partie technique étant réalisée par chacun des centres opérationnels d'ingénierie de détail. Ce centre au directorat aussi consolide et émet tous les appels d'offres du projet, comme je le disais, passe toutes les commandes, effectue la relance des fournisseurs, émet les plans d'inspection et en coordonne la réalisation de l'inspection. Une fois les matériels fabriqués et inspectés, ces matériels sont transportés et c'est cette même équipe qui s'assure le transport donné vers la fameuse jetée d'approvisionnement. Le contrôle du projet, au niveau du directorat, le contrôle du projet s'assure, doit avoir en fait la connaissance de l'ensemble du projet et doit maîtriser les délais et les coûts, que ce soit de l'ingénierie, des approvisionnements ou de la construction. C'est cette équipe qui doit proposer des actions correctives dès que des déviations sont identifiées. Elle analyse régulièrement les risques auxquels le projet est exposé, ceux d'un point de vue de la probabilité du risque, entre 0 et 100, de sa sévérité, c'est-à-dire des conséquences que ce risque peut avoir. Essentiellement, ce sont généralement des conséquences sur les coûts ou sur les délais, et de la manageabilité de ce risque, à savoir de l'influence que nous pouvons avoir pour éliminer ou pour que ce risque devienne beaucoup plus faible. Cette équipe aussi assure la responsabilité de tous les aspects financiers du projet, des taxes, et s'assure que les assurances sont bien prises au bon moment. Elle est aussi partie prenante pour le contenu local, dont j'ai parlé tout à l'heure, à savoir de vérifier que tout est bien maximisé du point de vue de l'ingénierie locale, que la formation des ingénieurs locaux, que le staff sur le site est au nombre requis, de façon à ce que cette partie contenu local, qui est souvent une partie contractuelle, soit respectée. Enfin, et aussi un gros travail pour cette équipe, c'est le reporting, que ce soit le reporting interne pour les sociétés A et B, ou le reporting externe vers le client. Alors, le centre d'opération A, donc je n'illustrerai pas le centre d'opération B qui est similaire à celui au A. Le centre d'opération A est un centre d'exécution, de production, qui va délivrer l'ensemble de la documentation pour sa partie, l'ensemble de la documentation ainsi que l'ensemble des plans, l'ensemble de la documentation qui est nécessaire pour les achats, ainsi que l'ensemble de la documentation qui est nécessaire pour la construction. Il y a un staff de management réduit par rapport au directorate, mais il y a quand même un staff de management. Et vous retrouvez dans le centre d'opération A, vous retrouvez l'ensemble des disciplines d'engineering que vous aviez au niveau du directoire. Pour terminer, le centre d'opération dit de construction. Ce centre d'opération est de loin le plus important parce que il ne s'agit pas, dans notre métier, il ne s'agit pas de produire des plans ou des documents, il s'agit de construire une usine. Donc le centre local de construction est dirigé par le directeur de site. Hein. Le directeur de site est vraiment une personne clé du projet, ainsi que toute son équipe. Généralement, il aura été intégré au directoire au tout début du projet, de façon à sensibiliser l'équipe du directoire aux contraintes de construction. Une fois sur le site, il rapporte au directeur de projet, il est entouré par une équipe complète de management, de supervision des entreprises qui effectuent la construction. Sur un site classique de type GNL, vous aurez entre 10 et 15 entreprises de construction différentes qu'il s'agit de coordonner et de superviser. Donc, ce centre local aussi aura, dans la partie ingénierie contenu local, une petite partie, généralement une petite partie d'ingénierie. Alors, avant de conclure, je voudrais dire que ce sont avant tout des équipes de femmes et d'hommes qui réalisent ces usines et qu'une équipe est toujours plus forte que l'ensemble des éléments qui la composent et qu'il s'agit pour réaliser ce type de projet pour les gagner, pour les réussir correctement, il s'agit d'assurer la cohésion de ces équipes pendant toute la durée du projet. De sorte que la construction, in fine, la construction soit réalisée dans les délais, que l'ensemble du projet soit à l'intérieur des coûts impartis, et le tout dans le respect de la qualité, de l'environnement, de la santé, de la sécurité, de la sûreté de tous les personnels. Et si on réussit ça, on réussit en général tout, y compris la satisfaction du client, qui vous redonnera un nouveau contrat après. En conclusion, une petite conclusion. Les défis exceptionnels qu'il y avait il y a 10 ans sont vraiment devenus une monnaie courante maintenant. Il y a 10 ans, nous réalisions un contrat de ce type à la fois. Maintenant, nous en réalisons environ 10. Et il est probable que dans 10 ans, du fait des consommations d'énergie, du fait du regroupement des donneurs d'ordre, du fait des développements technologiques nouveaux, du fait, etc., etc., il est probable que dans 10 ans, nous dirons la même chose des défis d'aujourd'hui. Et que c'est en réussissant ces défis actuels que nous préparons à affronter les prochains, et j'en suis sûr, ils seront passionnants. Voilà.
Merci. Merci. Nous allons nous remettre un peu de lumière dans la salle et voir les questions. Alors, manifestez-vous. Il y en a une ici. Voilà, monsieur.
Bonsoir. Pourriez-vous nous dire...
Parlez fort dans le micro, oui.
Pourriez-vous nous préciser qui assure la mise en service de l'usine de liquéfaction et la formation du personnel, des personnels d'exploitation et de maintenance? Et ensuite, comment se passe la réception par le client? Est-ce que vous allez jusqu'aux performances, à vérifier les performances attendues?
Alors, le cycle, nous n'assurons pas nous-mêmes la maintenance des usines. Hein, ce sont les opérateurs, le donneur d'ordre et ses opérateurs qui assurent la maintenance de l'usine. Hein, premier point. Deuxième point, le cycle de réception et de mise en service est généralement le suivant. Nous terminons la construction. Nous informons le client que la construction est terminée. Le client établit ce que nous appelons des punch lists, c'est-à-dire des listes de non-conformité, je les appelais comme ça. Alors, le client les établit. Le bailleur de licence, il y en a un, les établit. Le PMC du client, c'est-à-dire son consultant, en établi. Au total, nous avons une liste établie par plusieurs entités qui, dans les cas de ce type de projet, sont des listes qui tournent autour de, je vais dire, entre 10 et 30 000 points qu'il s'agit de régler. Alors, il y a trois types de points. Il y a les points qui doivent être réglés avant la mise en huile ou la mise en gaz. C'est les points qui sont liés à la sécurité. Il y a les points qui peuvent être traités avant la réception. Ce sont les points qui ne sont pas sécurité, mais qui ne sont pas longs à résoudre, qui peuvent être résolus avant qu'on s'en aille, à la réception provisoire. Et il y a les points qui sont résolus après la réception provisoire. Après, une fois que nous nous sommes mis d'accord sur ces listes, et généralement c'est long, hein, c'est très long, hein, ça dure plusieurs mois, une fois que nous nous sommes mis d'accord sur ces listes, nous avons un certificat de réception mécanique. Après quoi, nous commençons le commissioning, la mise en produit, je vais l'appeler comme ça, la mise en produit, la mise en gaz ou la mise en huile de l'usine. Et une fois que nous avons réussi les essais de performance sont les valeurs garanties de production, de qualité, de quantité, qualité essentiellement, débit d'eau par exemple aussi, consommation de gaz, consommation d'électricité, etc. Nous faisons ces essais de performance. En général, nous sommes responsables et nous sommes punissables si nous ne réussissons pas. Une fois que nous avons réussi, nous réussissons toujours. Une fois que nous réussissons, nous avons un certificat de réception provisoire. Et ensuite, à partir de ce certificat de réception provisoire, nous avons une durée de garantie de l'usine pendant laquelle nous garantissons, comme nous garantit notre constructeur automobile, pièces et main-d'œuvre pendant, en général, 12 mois. Nous, c'est 12 mois. Les constructeurs automobiles, ils vont jusqu'à 3 ans, ou 5 ans maintenant, peut-être. Nous, en général, c'est 12 mois. Quand c'est bien négocié, c'est 12 mois. Quand c'est mal négocié, c'est 24 mois. Voilà.
Monsieur.
Oui, ce sont des usines très importantes. À peu près 50% de la d'approvisionnement française. Et c'est quel coût quel est le prix d'une telle installation?
Le prix est très élevé. Le prix d'une installation 2 fois 7,8 millions de tonnes en, qu'on construit actuellement, les unités qu'on construit actuellement au Qatar, on en fait 3 fois 2 fois 7,8. Et ça vaut chaque fois 3 milliards d'euros. Ce n'est pas donné.
Madame, ici. Attendez, on vous apporte un micro.
Quelle est la durée de vie d'une telle usine ou pendant combien de temps va-t-elle fonctionner?
C'est contractuel, hein. C'est contractuel aussi, là, c'est 20 ans. Le design de ce type d'usine, c'est 20 ans. Mais en général, ça fonctionne plus que 20 ans.
Derrière Céline. Monsieur là-bas.
Oui, je voudrais vous poser la question suivante. Allez-y. Je voudrais vous poser la question suivante. Dans une telle opération où il y a deux entités participantes A et B, vous nous avez détaillé quel est le rôle de A, mais quel est celui de B?
Le rôle de A et de B, j'ai cru le dire à un moment, hein, A et B sont égaux devant le directoire. Le directoire, c'est les patrons. A et B les centres d'opération, hein, si on parlait des centres d'opération, là je pense, hein, les centres d'opération A et B se partagent l'ingénierie de détail, et seulement l'ingénierie de détail, c'est-à-dire la production de l'ensemble de la documentation et des plans nécessaires soit aux achats, soit à la construction. Le centre A aura une partie de l'usine, le centre B aura l'autre partie de l'usine. Et en général, ce que je pense avoir dit, le centre A, si les chefs de file aura les unités procédées, le cœur de l'usine, on va l'appeler comme ça, et le centre B aura tout le reste. Et la répartition, ce qui est intéressant dans ce type d'usine, c'est que pour faire une coentreprise, et ça j'ai omis de le dire, pour qu'une coentreprise puisse exister de ce type-là, il faut que chaque partie soit à peu près égale. Et par chance, quand on fait ce découpage de A et B, en prenant les unités procédées chez A et les unités le reste chez B, vous arrivez à peu près au même nombre d'heures de travail.
Monsieur ?
Concernant le transport du gaz, s'il est transporté sous forme liquide à la pression atmosphérique, la basse température est maintenue tout au long de la chaîne.
Tout à fait.
Oui, monsieur, allez-y.
Je parle.
Oui, ça marche.
Oui. Je voudrais vous demander, est-ce que Technip dispose d'une équipe pour prodiguer des conseils en ce qui concerne le développement de gros projets comme celui que vous venez de nous écrire, c'est-à-dire multinational, multiculturel, multisite, etc. Donc c'est exactement le cas de Airbus. Hein. Est-ce que vous auriez pu proposer vos services de gestion
On vous entend
projet.
Très mal, là. Hein. On vous entend mal.
Je
hein.
pas, oui, vous pourriez.
Oui.
Parlez plus dans le micro, s'il vous plaît.
Oui. Je demandais si Technip prodiguait disposait d'un service de conseil en gestion de très très gros projets. C'est exactement le cas de figure de Airbus. Hein. Est-ce que vous auriez pu? Mais apparemment, vous ne faites jamais d'erreur, ce qui n'est pas le cas de Airbus. Alors, c'est une question que je pose.
Je crains de ne pas avoir compris complètement la question.
Je n'ai pas compris non plus. La fin de votre question n'est pas audible.
Oui. Non, je disais que c'est vraiment une expérience exceptionnelle, quoi, de mener un tel projet c'est un projet qui peut être réalisé dans un autre type d'activité. Ah oui. Mais c'est ce que je voulais dire, c'est le cas de Airbus représente exactement votre caractéristique, vos caractéristiques, c'est-à-dire multinationales, multi-compagnies, multi-sites, etc. quoi. Utilisation de logiciels, homogénéisation. Oui. Donc c'est
tout à fait. Mais tout à fait. Hein, on retrouve avec Airbus ou avec d'autres grandes entreprises qui développent de grands produits industriels, hein, le même type de problèmes à résoudre, hein, et d'organisation. Donc. Chez nous, c'est simplement plus pétrole et gaz que chez Airbus, qui est plus aviation, voilà. Mais les organisations sont équivalentes.
Attendez, on vous amende un micro. On va prendre encore deux ou trois questions et puis.
La technologie que vous utilisez est la même depuis toujours. Enfin, la seule différence, c'est de plus en plus compliqué et de plus en plus gros. Mais c'est le même principe. Ma question, est-ce que, pour un avenir plus ou moins proche ou plus ou moins lointain, est-ce que vous entrevoyez des percées technologiques fondamentales qui vous feraient modifier profondément votre métier ?
Pas à ma connaissance, hein, la technique de réfrigération, effectivement, est assez ancienne. Hein. C'est au sens que je me rappelle, quand j'étais à l'école, c'est la détente, c'est effet Joule-Thomson, la détente des gaz pour récupérer les frigories. Je ne pense pas. Il y a des développements actuellement, des développements qui sont d'une autre nature. Par exemple, on prévoit d'ici un certain temps d'avoir ces usines de GNL au lieu de les avoir en bord de mer, puisque vous savez qu'il y a beaucoup de gaz quand même en mer, et au lieu de rapatrier le gaz jusqu'à la terre, d'avoir ces usines près du centre de production, près du champ. Ça, c'est un développement qui est envisagé actuellement.
Oui, je voudrais savoir, tout à l'heure vous donniez comme exemple A comme chef de file. Est-ce que c'est l'entreprise qui a prospecté et a obtenu l'affaire ou on est venu vous la demander? Et est-ce que c'est vous qui contactez l'entreprise B pour faire cette fameuse co-entreprise? Et est-ce que cette co-entreprise est dissoute à la fin de l'ouvrage? Et sinon, pour une autre affaire après, est-ce que c'est B qui devient chef de file et vous qui devenez deuxième, etc. quoi. Merci.
D'accord. Donc vous avez tous les cas de figure, en fait. Hein, et celui qui marie les entreprises, c'est le donneur d'ordre. Il marie les entreprises au moment des appels d'offres. Et ces entreprises donc sont mariées et il y a plusieurs co-entreprises qui se bagarrent pour avoir le job et les gagnants ensuite font le projet jusqu'à la fin et ensuite la co-entreprise est dissoute. Et un client qui aime bien JGC va prendre JGC comme chef de file. Un client qui aime bien Technip prendra Technip comme chef de file.
On va prendre une dernière question.
Oui, excusez-moi, ce n'est pas une question, mais un commentaire qui entre à propos de la avant-dernière question où on demandait dans des projets d'une telle ampleur si vous ne cherchiez pas, si vous ne deviendrez pas consultant. Alors, moi, je voulais dire que dans le pétrole, parce que je suis aussi pétrolier, excusez-moi, nous n'avons pas eu jusqu'à présent aucun raté. Et je me demande si ce n'est pas la formidable école, l'ENSPM, qui en est un peu la cause, l'école du pétrole et des moteurs, pour la formation des hommes. Puisque depuis les problèmes qui ont été posés par le gaz de lac, on a pu les résoudre au fur et à mesure. Donc, je pense qu'il y a un peu l'IFP derrière et puis l'école du pétrole. Qu'en pensez-vous?
Mais de quel point de vue l'IFP?
Pardon?
Je comprends bien, j'ai pas compris la question. L'ESPM serait responsable de quoi?
C'est que les hommes, une grande partie de ces hommes de chez Technip que l'on va retrouver, ils ont été formés à l'ENSPM.
Un certain nombre. Pas moi, par exemple.
Une grande partie, oui, je dis une grande partie et puis ça se brasse. Donc, est-ce que ce n'est pas là un peu le...
Vous voulez dire qu'on tourne en rond à cause de l'avoir la même formation de base?
Oui, un peu.
Peut-être. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas de l'ESPM chez nous, hein, quand même. Mais il y en a certains, c'est vrai. Mais vous savez, je ne sais pas si vous le savez, hein, mais Technip a été créé par l'IFP. Hein, Technip, d'où le... À la fin, il y a IP, qui est la symbolique pour IFP. Il a été créé en 1958 pour que le premier engineering français pétrole gaz. Et c'est tout à fait naturel qu'il y ait beaucoup d'ingénieurs formés à l'IFP, c'est-à-dire à l'ENSPM, qui y soient.
Bien, nous allons vous en tenir là. Merci beaucoup, Monsieur Duval. Et demain, ce sera Madame Joëlle Castel qui nous parlera du pétrole-gaz au plastique. Merci, bonsoir.